Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci de nous rejoindre. Samedi 11 février, nous sommes ensemble pour revivre 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction, bien sûr. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de la radio RFI.fr. Nous ferons aujourd'hui escale aux États-Unis, en Ukraine, en France ou en Côte d'Ivoire, par exemple. Cette semaine, notre invité est le journaliste Pierre Aski, auteur d'un essai sur la France. Aujourd'hui, le droit au bonheur, la France à l'épreuve du monde, c'est le titre de cet ouvrage, un livre publié chez Stock. Bonjour Pierre Aski.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
Merci.
Vous êtes un observateur très précis des affaires du monde, de l'actualité que vous avez suivi et que vous suivez depuis des décennies.
Fort longtemps.
On y reviendra, notamment en ce qui concerne l'Afrique du Sud. Vous avez été en poste...
Il y a 40 ans, au moment de l'apartheid.
Alors quoi, il y a eu l'AFP, il y a eu Libération...
Et ensuite la création de Rue 89.
Rue 89, bien entendu. Et ensuite...
Et maintenant, je suis chroniqueur à l'Obs, l'ancien... anciennement le Nouvel Observateur, sur les questions de politique internationale.
Et vous écrivez donc un nouveau livre, Le droit au bonheur. On a eu l'occasion dans cette émission de parler d'autres de vos ouvrages à ce micro. Et là, il s'agit en fait d'un cri d'amour. D'un cri d'amour, c'est vive la France en quelque sorte.
En fait, c'est le livre de quelqu'un qui a souvent ou le plus souvent regardé la France de l'extérieur,
de loin.
Puisque j'étais en poste à l'étranger et entouré de gens dans le reste du monde qui se demandent pourquoi la France va mal et qui se demandent pourquoi la France surtout est pessimiste. Comme vous le savez, la France est un des pays les plus pessimistes au monde dans les sondages.
Avec une consommation record d'antidépresseurs.
Hein. Voilà, ouais. Et les gens se demandent mais pourquoi la France est plus pessimiste que l'Afghanistan qui est en guerre depuis 30 ans alors que vous avez en gros tout pour être heureux. Et c'est un peu le point de départ de cet essai avec une sorte d'introspection aussi sur le fait que souvent j'ai le sentiment que les Français ne comprennent pas ce qui leur arrive et que ça accentue ce désarroi ou le miroir ne correspond pas à ce qu'on imagine. Et voilà, donc j'ai pris les gros chapitres, les gros rendez-vous qui me semblent importants de la France avec la mondialisation, avec la révolution technologique, avec l'Afrique, avec les changements de la société française, et j'essaye de les rendre peut-être plus facilement compréhensible en passant par la moulinette de mes propres expériences, voilà.
Avec quand même, Pierre, une inquiétude, hein, parce que vous dites dès le début du livre qu'on est peut-être à la veille d'une tempête.
Oui, je pense que tout ce qui se passe en ce moment en France ne me contredit pas.
Pas vraiment, surtout pas cette semaine, par exemple.
Oui, oui, que ce soit à la fois une sorte de vide politique dans lequel nous vivons avec ces querelles insensées ou ce qui se passe dans les banlieues aussi, j'en parle beaucoup dans le livre, et on voit que ça a reçu surgit, c'est-à-dire que on a des feux qui couvent, qui se rallument de temps en temps. Alors quand ça se rallume, il y a le branle-bas de combat où on vous dit c'est la priorité, on va régler ça, etc. Puis des années passent et on ne les règle pas. Et c'est et un peu le cri d'alarme du livre, c'est on va passer à côté de l'histoire, on va rater notre rendez-vous avec notre propre transformation. Le monde a changé, je pense que c'est un euphémisme de le dire. Il est en train de changer et pas forcément dans le sens que nous, Français, souhaiterions, c'est clair. Les forces en mouvement dans le monde ne sont pas forcément celles que nous attendions. Et il faut qu'on prenne nos propres responsabilités, nos propres décisions pour continuer à avoir la maîtrise de notre destin.
Alors, on va continuer à parler de votre livre, de tout ça, de cette France dans le monde. Et on va commencer tout de suite notre voyage, Pierre Aski, et partir pour Port-au-Prince, que vous connaissez peut-être, non ?
Oui, tout à fait. Oui. J'ai couvert des élections en Haïti il y a fort longtemps.
Alors, Port-au-Prince, pour revenir sur l'investiture d'un autre président, le nouveau président, le président Jovenel Moïse, investiture donc mardi, correspondance d'Amélie Baron.
C'est en prêtant serment devant le Parlement et en recevant l'écharpe bicolore que Jovenel Moïse est devenu officiellement le 58e président d'Haïti. Mais le point d'orgue de la cérémonie d'investiture a évidemment été le premier discours à la nation du nouveau chef d'État. Il l'a donné sur le site où se tenait jusqu'en 2010 le palais présidentiel, palais qui a été détruit lors du séisme et non reconstruit depuis. Devant un public acquis car majoritairement composé d'amis et de partisans, Jovenel Moïse a plaidé pour l'union nationale et surtout pour le changement.
L'heure est venue de mettre en œuvre le changement décidé par le peuple le 20 novembre dernier. Oui, il est venu le temps de conjuguer intégrité, moralité, mérite ordre et discipline. Sous mon administration, jamais, plus jamais, la justice et les institutions haïtiennes ne pourront être instrumentalisées à des fins de persécution politique.
Que la justice soit impartiale, cette exigence de Jovenel Moïse fait évidemment écho aux affaires de blanchiment d'argent dont il est soupçonné et qu'il a toujours dénoncé comme étant une attaque politique.
Alors direction maintenant le grand voisin, Pierre Aski, les États-Unis bien sûr, pour parler de Donald Trump et du décret qu'il a signé et qui interdit aux ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer aux États-Unis. Décret bloqué par la justice, un blocage confirmé jeudi à Washington, Anne-Marie Capomaccio.
Nous nous retrouverons devant les tribunaux, la sécurité de la nation est en jeu. C'est la réaction immédiate de Donald Trump après le camouflet que lui a infligé la Cour d'appel de San Francisco. Les 3 juges fédéraux à l'unanimité ont en effet admis les arguments des États de Washington et du Minnesota. La Maison-Blanche n'a pas prouvé l'imminence de la menace terroriste induite par l'admission des ressortissants des 7 pays concernés. En revanche, le ministre de la Justice de l'État de Washington, celui qui a demandé le blocage du décret, a fait la preuve du préjudice causé par cette interdiction. Robert Ferguson a immédiatement célébré sa victoire.
C'est une victoire totale pour l'État de Washington. La Cour d'appel à l'unanimité nous a donné raison sur tout. Nous sommes un État de droit et comme je l'ai toujours dit, ces lois s'appliquent à tous dans ce pays, y compris le président des États-Unis.
Le président Trump a prévenu, si un attentat était perpétré sur le sol américain, ce serait de la faute du juge qui a pris cette décision. La tension est telle que certains de ses magistrats fédéraux ont été menacés. Ils sont désormais sous protection. Le président Trump a déjà annoncé son intention d'aller devant la Cour suprême pour un ultime recours.
Alors là, Pierre Aski, je suis sûr que depuis le premier jour du mandat de Donald Trump, vous le suivez avec attention, ne serait-ce que pour votre chronique de l'Obs.
Et je suis non seulement sur Twitter, où il est très présent et je dois dire assez plaisant à suivre, mais aussi politiquement. Et je pense qu'il y a deux choses qui sont vraiment très intéressantes dans cette affaire. La première, c'est que on a eu tendance souvent à le traiter un peu comme un clown ou comme un fou, comme un excentrique. Je pense qu'il y a de ça, mais il y a surtout un fond qui est dangereux pour la planète aujourd'hui. Trump est entouré aujourd'hui d'un petit groupe, à commencer par Steve Bannon, qui est son conseiller spécial, qui est maintenant
membre
du Conseil national de sécurité et qui est un idéologue un peu mystique qui, je pense, a une influence extrêmement négative sur le président américain. Ça serait pas grave dans un autre pays, il se trouve que c'est la première puissance mondiale. Donc la capacité de dégâts, et on le voit dans plein de dossiers, est très importante. Et ce qui est important à suivre, à mon avis, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est l'équilibre ou le déséquilibre entre ce petit noyau très soudé, très idéologique autour de Trump et l'appareil républicain classique qui a mis quand même des gens en place comme dans des postes clés et qui ne voit pas les choses de la même manière. Et on le voit sur certains sujets. Il y a eu des inflexions, par exemple, sur la Chine. Trump a commencé en attaquant la Chine, bille en tête, a commencé par Taïwan, puis la mer de Chine du Sud, etc. Et puis là, on vient d'apprendre qu'il a appelé le président Xi Jinping en disant qu'il était entièrement d'accord avec la position classique qui est celle d'une seule Chine, donc oubliant Taïwan. Et là, on voit bien qu'il y a une reprise en main d'un certain côté.
Et on verra tout à l'heure, Pierre, qu'il est en train peut-être de changer d'avis sur la colonisation israélienne également. Ça, c'est à suivre.
Tout à fait. Hein. Et ça fait partie de ces sujets sur lesquels il y a d'un côté l'idéologie, de l'autre côté, il y a le pragmatisme. Et on est un petit peu dans le bras de fer entre les deux.
Alors, j'ajoute que dans l'actualité cette semaine, il y a des manifestations, des centaines de milliers d'Iraniens qui ont défilé dans les grandes villes du pays pour commémorer l'anniversaire de la révolution islamique, évidemment dans le contexte d'une nouvelle tension avec les États-Unis.
Oui, l'Iran fait partie de ces pays sur lesquels, dès la campagne électorale, Trump avait tapé en disant qu'il ne respecterait pas l'accord nucléaire, que c'était un très mauvais accord qu'il fallait jeter aux oubliettes de l'histoire. Et finalement, depuis qu'il est président, il a confirmé cette position. Et donc, il y a une inquiétude très forte en Iran qui espère du côté de l'Europe. Alors, Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, était à Téhéran il y a seulement quelques jours. Les Iraniens espèrent que l'Europe saura défendre cet accord collectif, que la planète entière frontières à signer, puisque il y avait aussi bien les Russes, les Chinois. Ça a été ensuite doublé d'une résolution au Conseil de sécurité. Donc Trump aujourd'hui menace de déchirer un document qui a une force très très importante. Et je pense que, hélas, l'Europe aujourd'hui n'est pas assez consciente, assez forte, assez organisée pour agir sur des dossiers comme ça, mais c'est vraiment très regrettable.
On va reparler de l'Europe dans un instant. Alors Pierre Aski, partons pour l'Ukraine maintenant, où des escarmouches continuent à l'est du pays entre sécessionnistes pro-russes et l'armée ukrainienne. Reportage de Sébastien Gobert.
L'écho des canons est quotidien dans le Donbass. Les armes lourdes ont refait leur apparition sur des zones supposées démilitarisées. Les observateurs de l'OSCE craignent ouvertement une escalade des affrontements après les sanglants combats des semaines dernières. Une intensification des bombardements ne veut néanmoins pas dire que la ligne de front puisse bouger d'un côté ou de l'autre. Les craintes d'une invasion massive de l'Ukraine par les forces russes et pro-russes étaient très vivaces en 2014. Elles sont désormais apaisées, comme l'exprime le vice-gouverneur de la région de Donetsk, Yevhen Vilinsky.
L'armée ukrainienne est radicalement différente de ce qu'elle était en 2014. Cela n'a rien à voir, elle est bien mieux entraînée et équipée. Nous ne connaîtrons plus les défaites d'il y a 2 ans.
Les belligérants mènent parfois des incursions sur quelques centaines de mètres. Les lignes de défense sont néanmoins solides des deux côtés, et la plupart des offensives échouent. Pour beaucoup d'observateurs, ce conflit ressemble de plus en plus aux tranchées de la Première Guerre mondiale. Aucun camp ne peut ni perdre ni gagner la guerre par des moyens militaires, et les négociations de paix, elles, sont gelées. Les duels d'artillerie alourdissent chaque semaine le bilan des morts et des blessés, sans changer quoi que ce soit sur le cours de ce conflit.
Alors, autre sujet à retenir cette semaine, à Londres, une étape clé a été franchie dans la mise en œuvre du Brexit, avec l'adoption par les députés du projet de loi qui autorise la Première ministre, Theresa May, à lancer la procédure donc de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les députés de la Chambre des communes ont largement approuvé mercredi le texte en première lecture. Anastasia Becchio.
Le projet de loi et ses quelques 140 pages d'amendements doit être maintenant examiné par la Chambre des Lords. Si ces derniers décident à leur tour de changer des points du texte, il reviendra devant les députés. C'est le ping-pong parlementaire qui durera jusqu'à ce que les deux chambres se mettent d'accord. Le gouvernement espère en avoir terminé d'ici le 7 mars. Theresa May s'est engagée auprès de ses homologues européens à déclencher l'article 50 du traité de Lisbonne avant le 31 mars. Les dirigeants des 27 autres États membres ont prévu de se réunir en sommet spécial dans les 3 à 5 semaines qui suivent cette notification officielle. Ils traceront alors leur ligne directrice pour les négociations de sortie qui doivent durer 2 ans. Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, s'attend à ce que les discussions sur les modalités du divorce et les dispositions transitoires durent 18 mois, ce qui signifie qu'elles devraient se terminer vers octobre 2018. L'accord définitif de sortie devra être soumis au Parlement européen pour approbation avant d'être accepté par le Conseil européen. Côté britannique, Theresa May envisage de le présenter à son Parlement avant de donner son feu vert final à la ratification. Ce ne sera pas, en tout cas, avant mars 2019.
Autre étape, Pierre Aski, avant de vous écouter à nouveau, Israël, avec cette fois l'adoption d'une loi qui avalise l'implantation de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. Romain Lemaresquier.
Cette décision est, je cite, « contraire au droit international et aura des conséquences juridiques pour Israël », a tenu à préciser le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies ce mardi. Tout comme Londres, Paris, Le Caire, Ankara ou encore Amman, l'ONU mise sur une solution à 2 États et l'adoption de cette loi qui permet de légaliser rétroactivement près de 4000 logements de colons va dans le sens contraire. L'Union européenne, par le biais d'un communiqué de la porte-parole de Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, dénonce également qu'avec cette loi, c'est, je cite, un seuil nouveau et dangereux qui est franchi. Après la condamnation de François Hollande qui recevait ce mardi à l'Élysée Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, les condamnations se sont multipliées. Même en Israël, des voix s'élèvent, à l'image du procureur général d'Israël qui estime que ce projet n'est pas conforme à la Constitution, ajoutant qu'il enfreint le droit international comme l'a également suggéré le secrétaire général de l'ONU. Des réactions qui diffèrent de celles de la Maison Blanche qui préfère rester muette, refusant de commenter cette loi vécue comme une véritable agression par les Palestiniens et les défenseurs d'une solution à 2 États.
Et 2 organisations de défense des droits de l'homme ont déposé mercredi le premier recours devant la Cour suprême pour faire annuler la loi. Pierre Aski, ça c'est une affaire importante. Hein.
Oui, et en fait ce qui est frappant, c'est que les 3 sujets que nous venons d'entendre, c'est-à-dire l'Ukraine, l'Europe et le départ du Royaume-Uni et Israël et la colonisation de la Palestine, sont liés. C'est-à-dire qu'on est dans les conséquences de l'arrivée de Trump au pouvoir. Parce que on voit bien que Beaucoup de gens se disent que les mauvais coups sont possibles aujourd'hui. Des choses qui autrefois, dans un monde un petit peu plus régulé, encore, c'était, faut le dire vite, n'étaient pas possibles, sont aujourd'hui possibles parce qu'il n'y a plus ni de gendarmes ni de cohérence internationale. Donc certains en Israël se disent, bah, on va faire main basse sur des territoires qu'on ne pouvait pas légaliser jusqu'à présent. Le conflit ukrainien, comme par hasard, ressurgit alors que depuis plusieurs mois, il y avait un calme relatif entre les deux parties. Et Theresa May a choisi la ligne dure pour quitter l'Europe parce qu'elle pense qu'elle a le soutien des États-Unis et qu'elle sera en mesure très vite de signer un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc dans les trois cas, on a ce nouveau monde qui apparaît et qui est particulièrement dangereux. Et je pense en particulier au dernier sujet donc sur la Palestine. Il est clair que les Palestiniens ne resteront pas les bras croisés en voyant le peu d'espoir qui restait de voir cette solution de deux États disparaître sous leurs yeux. Trump, au même moment, dit qu'il réfléchit à déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. On est à la fois dans des choses très concrètes comme la prise de possession de terres, légaliser la captation de terres, et de l'autre côté, des symboles comme l'ambassade. Et je pense qu'on joue avec le feu. On est en train d'allumer la mèche d'un nouveau conflit dans cette région.
Et du coup, les Français, pour revenir à votre livre et à la France, à notre cher pays, sont d'autant plus inquiets dans ce contexte international tendu et face à une Europe qui ne fait pas face. Vous dites à propos de l'Europe que le rêve a tourné court.
Oui, le rêve a tourné court. Ça fait un bon moment et je pense qu'on peut dater. Il y a des étapes qui ont été ratées. Je pense que l'élargissement a été mal géré parce qu'il a été fait dans cette urgence d'accueillir l'Europe post-communiste après la chute du mur et que on a noyé le projet européen au profit d'une sécurité européenne pour tous ces pays, ce qui était politiquement inévitable à l'époque, mais qui a été sans doute mal géré. On a mal géré le traité de 2005. Je pense que dans le climat délétère politique que nous avons en France, cette affaire joue beaucoup. Vous vous souvenez qu'en 2005, les Français ont voté
non.
Donc
c'était un nouveau texte de constitution européenne.
Et il y a eu un nouveau texte qui est passé par la voie parlementaire. C'est-à-dire qu'on a, les Français ont le sentiment que les processus démocratiques ne servaient pas à grand-chose. Et aujourd'hui, on a cette accumulation de crises entre la dette grecque, la crise des migrants, le terrorisme qui met à mal l'idée que l'Europe nous protège. Et si aujourd'hui, on a une sorte de dernière chance qui nous est offerte, d'une certaine mesure, par Trump. Trump nous donne la possibilité de comprendre que nous n'avons pas vocation à dépendre en permanence de la protection et d'un grand frère de l'autre côté de l'Atlantique.
Et notamment Pieraski en matière de défense.
En matière de défense, absolument. De en particulier. Et la France, alors, de ce point de vue-là, a gardé un appareil de défense, une capacité de défense qu'elle est quasiment seule maintenant, sans la Grande-Bretagne, qu'elle est la seule à pouvoir afficher, parce que la plupart des autres pays, il faut bien le dire, ont baissé leur budget, baissé les bras, en se disant... on a le parapluie américain. Aujourd'hui, soit l'Europe fait le choix de s'organiser, que ce soit sur sa défense ou politiquement, peut-être avec les pays qui le veulent, parce que je pense que tout le monde ne le veut pas aujourd'hui parmi les 27 ou 28.
Le ressurgissement de cette idée d'Europe à plusieurs vitesses, notamment en matière de défense.
Mais dont on parle depuis 30 ans. Ouais. L'Europe, on a employé plein de formules à géométrie variable, à plusieurs vitesses. Je pense qu'il est temps de le faire avec les pays qui veulent aller plus loin. Il y aura la France et l'Allemagne inévitablement, parce que sans ces deux pays, ça n'est pas possible. L'Allemagne seule ne peut pas diriger l'Europe parce qu'elle sera accusée d'hégémonie. Et la France seule est trop faible. Et donc, la combinaison des deux a été le moteur de l'Europe depuis un demi-siècle. Ça doit le redevenir.
Mais en ce qui concerne la France, peut-être que ça va inciter les candidats à la présidentielle, on sait que c'est le cas de François Fillon, s'il va jusqu'au bout, va les inciter à augmenter le budget militaire du pays.
Alors, ça, c'est un des points communs de tous les candidats. C'est même Benoît Hamon parle d'un deuxième porte-avions, ce qui est un coût dont je ne suis pas sûr que son budget sera en mesure de le supporter. Mais là où ils sont divergents, c'est effectivement sur la participation européenne. Et entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, par exemple, il y a un fossé colossal sur cette question.
Pierre Pieraski, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde de ces dernières heures et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Mémoire. part d'un...
Pour revivre 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction et notre invité, le journaliste et essayiste Pierre Aski.
Une semaine d'actualité.
Pierre Aski, vous venez donc d'écrire Le droit au bonheur, la France à l'épreuve du monde chez Stock. Nous allons justement faire un point sur les grands moments de l'actualité française. Nous allons nous y attarder un peu plus longuement que d'habitude avant de partir pour l'Afrique, un continent que vous aimez beaucoup et que vous connaissez. Nous parlerons des suites de l'affaire Fillon dans un instant, mais revenons tout de suite sur l'arrestation d'un jeune homme gravement blessé à coups de matraque au niveau du rectum le 2 février à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, dans la banlieue parisienne. L'affaire a pris un tournant politique inédit car le président de la République, François Hollande, s'est rendu à l'hôpital de la ville pour rencontrer ce jeune de 22 ans de la cité des 3000, ainsi nommé en référence au nombre de logements qu'il abrite et des membres aussi de sa famille, une cité sous tension. Reportage mardi de Stéphane Lagarde.
C'est assez hallucinant. Il y a un déploiement extraordinaire, comme si on était en zone de guerre. Il y a un hélicoptère qui fait des tours sans arrêt.
Un hélicoptère au-dessus du quartier de la Rose des Vents. À Aulnay, des policiers à cheval, d'autres casqués et équipés de boucliers. Voilà qui surprend cette habitante de la cité des 3000, qui, comme d'autres, dénonce les contrôles aux faciès et des policiers qualifiés de cow-boys.
Ça arrive que la Papouasienne contrôle, que ce soit un peu, des fois un peu brutal, mais... Personnellement, je ne suis pas touchée par ce genre de choses.
Roselyne n'a jamais vécu de brimade lors des contrôles policiers, mais depuis ce week-end, elle interdit à son fils de sortir, craignant de nouveaux affrontements.
Le policier, c'est des bras.
D'autres dans la cité ont un point de vue beaucoup plus radical sur ces relations entre jeunes et policiers. C'est le cas d'Hakim, 15 ans.
Je sors dehors, en bâtiment, il y a un policier qui est venu, il m'a gazé. Je me suis dit, ça le gros porc, toi tu cours, sale arabe, comme ça, voilà. Nous sommes à la base, les policiers nous défendent, mais vas-y, c'est la merde.
À la base, les policiers doivent nous défendre, aujourd'hui ils nous agressent. Justice pour Théo, dit le slogan, peint sur un mur à côté d'un véhicule calciné. Ceux qui blessent, ce sont aussi les insultes, dit Salim, 17 ans.
Ça dépend quel policier, il y en a qui sont mauvais, il y en a plus qui sont racistes maintenant. Ils insultent les noirs, les arabes, après ça dépend, on n'est pas tous pareils quoi. Ouais, il y a des policiers qui sont quand même sympas.
Des policiers sympas, voilà, afin d'éviter que la situation ne dégénère. Le maire d'Aulnay-sous-Bois a demandé aux autorités d'envoyer un signal fort aux habitants pour leur dire que l'État est derrière eux et non contre eux.
Suite à une semaine d'actualité, alors Pierre Aski, ce climat, vous le décrivez très bien dans le livre, c'est ce climat de racisme, ce climat de crise sociale, ces quartiers de certaines banlieues, c'est un climat totalement délétère.
Vous savez, le diagnostic, il a été fait depuis longtemps. Depuis au minimum les émeutes de 2005 qui avaient provoqué à l'époque un premier état d'urgence et qui avaient vraiment tiré la sonnette d'alarme sur la situation dans ces quartiers. Mais il y a encore à peine 2 ans, Manuel Valls, lorsqu'il était Premier ministre, avait employé cette formule qui avait fait beaucoup de bruit. Il avait parlé d'un apartheid résidentiel, social et ethnique dans une partie de la France. C'était alors ça avait fait scandale parce que évidemment l'apartheid c'était des lois en France les lois ne sont pas racistes, mais il parlait de la pratique et de la réalité de parties autour des grandes villes en France et il avait entièrement raison. Et ce qui moi me m'étonne, et je m'en étonne dans le livre, c'est que en 2005 lorsque les banlieues se sont embrasées, on a dit plus jamais
non,
ça
comme d'habitude.
Plan Marshall,
comme d'habitude. Le plan Marshall des banlieues, il y en a je ne sais plus combien.
Exactement.
Ce jour,
hein. Et je cite notamment les maires, etc. de ces communes 10 ans après, donc en 2015, lorsque la presse s'est intéressée au 10e anniversaire des émeutes de 2005, en disant bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais rien n'a fondamentalement changé, ni dans l'organisation sociale et résidentielle de ces quartiers, ni dans les rapports humains. Et ce sont ces rapports humains qu'on voit éclater régulièrement de cette manière, et les rapports entre la police et
et
les jeunes,
aussi, hein.
C'est aussi une vieille histoire. Et ce qui est terrible, et d'une certaine manière, il faut espérer que ça remettra la question au cœur de la campagne électorale et que les candidats seront amenés à prendre des engagements sur le sujet. Ensuite, il faudra les tenir, les engagements.
Mais c'est le plus dur en général.
Mais quand même, c'est une des questions centrales de l'organisation et de l'avenir de la société française. Et on n'est pas capable de la régler.
Mais vous dites très bien dans le livre qu'il y a beaucoup de fractures en France, hein.
Oui, tout à fait. Et en fait, on a des concurrences qui se sont mises en place, des concurrences de mémoire, des concurrences de victimisation. Mmh. Et ça, c'est, je pense que il faut s'attaquer à ça d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut. Il y a beaucoup de débats, par exemple, sur l'histoire. Et c'est une des manières peut-être de penser les plaies. Vous avez des gens comme Benjamin Stora, comme Patrick Boucheron, qui est maintenant au Collège de France. Qui travaille sur cette question qui est de voir comment l'histoire peut être un moyen d'amener des gens qui ont des vécus, des mémoires, des blessures différentes et parfois opposées à vivre ensemble et à se construire un avenir commun. Et bon, Benjamin Stora, qui est historien, spécialiste de l'Algérie, parle du fait que nous avons en France plusieurs mémoires concurrentes sur l'Algérie. Les rapatriés d'Algérie, donc les Français d'Algérie, ont cette blessure d'avoir dû quitter ce qu'ils considéraient comme leur terre. Les immigrés d'origine algérienne, eux, étaient de l'autre côté. Leur pays, c'est l'Algérie indépendante qui s'est battue contre ces colons. Vous avez les Harkis qui sont, eux, des musulmans algériens qui se battaient du côté de la France. Tout ça vit aujourd'hui dans le même territoire en France et est censé partager une vision et une mémoire commune. C'est pas le cas parce que on a mis tout ça sous le tapis en pensant que après plusieurs générations ça disparaîtrait. Ça n'a pas disparu et ça crée des tensions. Et peut-être que effectivement l'histoire, l'école peut être un moyen de le résoudre, mais c'est du long terme évidemment. Ah,
puisque vous avez parlé de Patrick Boucheron, il faut signaler la publication de son excellent livre collectif, son Histoire mondiale de la France, publié au Seuil, qui est un livre de référence autour duquel s'est greffé un débat, un vif débat, mais le livre en tant que tel est absolument passionnant. Alors parlons maintenant de l'affaire Fillon. Pierre Aski, le candidat de la droite, a présenté ses excuses lundi et s'est dit résolu à être transparent, mais quelques zones d'ombre demeure, c'est le moins qu'on puisse dire, zone d'ombre que le parquet financier tente d'éclairer. Julien Chavannes.
C'est au bout de 7 minutes de défense acharnée, point par point, que François Fillon fait son mea culpa.
Suis-je pour autant quitte sur le plan moral ? J'ai privilégié cette collaboration de confiance, c'était une erreur. Je le regrette profondément. Et je présente mes excuses aux Français.
S'il reconnaît une erreur, c'est sur le plan moral. Il réfute tout emploi fictif. Candidat, il le reste. Et à ses yeux, il n'y a jamais vraiment eu de scénario pour le remplacer.
Plan B, on a vu qu'il n'y en avait pas. Je crois qu'un de mes amis a utilisé une belle formule. Plan B, c'est plan B Résina. Ceux qui ont réclamé que je me retire de cette compétition sont peu nombreux. En tout cas pas majoritaire.
Qu'importe les états d'âme de quelques députés, François Fillon va mettre en scène toute cette semaine le rassemblement de la famille. Ce mardi matin, avec les parlementaires réunis au QG, l'après-midi à 3 chez François Baroin, c'est une nouvelle campagne qui commence, promet le candidat. Pour le sénateur Gérard Longuet, l'épreuve pourrait même servir François Fillon.
La seule chose que nous savons de plus depuis 10 jours, c'est que notre candidat a du caractère et du sang-froid.
Une nouvelle campagne avec l'ombre de l'enquête du parquet financier, et puis cette incertitude. Les électeurs seront-ils rassurés par la défense de François Fillon ? Les derniers sondages le donnent éliminé dès le premier tour.
Alors mercredi, le Canard Enchaîné a publié de nouvelles informations sur les indemnités de licenciement de Pénélope Fillon, présumée assistante parlementaire de son mari, Raphaël Rennes.
Selon le Canard Enchaîné, Pénélope Fillon a perçu 16 000 euros d'indemnité, soit l'équivalent de 5 mois de salaire, en août 2002, lorsque son mari, devenu ministre, a mis fin à son contrat d'attaché parlementaire. Pourtant, un mois plus tôt, Madame Fillon avait retrouvé un emploi auprès du suppléant de François Fillon, Marc Joulot. Premier cumul, Pénélope Fillon aurait donc touché deux salaires durant un peu plus d'un mois, écrit le Canard Enchaîné, ce que dément le candidat à la présidentielle. François Fillon, qui embauche à nouveau son épouse en juillet 2012, toujours comme attaché parlementaire, elle le restera jusqu'en novembre 2013, 17 mois, durant lesquels Pénélope Fillon est également conseillère littéraire à la revue des Deux Mondes, deux emplois censés être à temps plein, alors que la loi française impose de ne pas dépasser les 48 heures de travail par semaine. La fille aînée du couple Fillon a elle aussi cumulé les fonctions. En 2006, Marie Fillon est élève avocate, en stage dans un cabinet et assistante de son père au Sénat. Quelques mois durant lesquels elle aurait aidé le candidat à écrire un livre titré la France peut supporter la vérité.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Pierre Raski, qui a écrit Le droit au bonheur, la France à l'épreuve du monde, un essai publié chez Stock, cette affaire Fillon a déclenché beaucoup de messages d'auditeurs, Pierre. Par exemple, Hassan Baris pose une question, pourquoi la droite est souvent éclaboussée par des scandales d'ordre financier? On peut lui dire que la gauche aussi
a eu son lot.
A son lot également, et lui se focalise sur la droite. Et Donatien, lui, se demande quelle crédibilité accorder aux médias français avec les investigations du canard enchaîné. Donc, tout ça a suscité une grande curiosité de la part de nos auditeurs. Quel regard portez-vous sur cette affaire?
Je trouve cette affaire terrible parce que, évidemment, une fois de plus, c'est la classe politique qui est éclaboussée. Et le tous pourri qui est ressurgit. Agité par l'extrême droite ressurgit et finalement c'est tout ce qui en reste. Mais il y a deux dimensions. La première, c'est que, et ça c'est le côté positif, c'est qu'il y a quand même une demande d'éthique dans ce pays. Et la phrase de François Fillon qu'on a entendue tout à l'heure en disant « j'ai rien fait de mal, mais je m'excuse parce que j'ai commis une faute morale », je pense que c'est la réalisation qu'effectivement le pays ne peut plus supporter ces manquements à la morale et à l'éthique. Et que si François Fillon a été choisi par rapport à Nicolas Sarkozy dans la primaire de la droite, c'est justement parce qu'il était monsieur propre par rapport à l'ancien président qui avait un certain nombre d'affaires judiciaires.
Une des raisons qui ont poussé le canard enchaîné à mener l'enquête, d'ailleurs.
Absolument, et que tout le monde est tombé de la chaise d'une certaine manière parce que on n'attendait pas François Fillon sur ce terrain-là. Ça, c'est la partie positive, c'est cette demande de morale et d'éthique en politique. La partie négative, c'est évidemment que là, on est dans le déballage absolu avec cette campagne contre les journalistes, contre les juges, la recherche de boucs émissaires.
Alors, François Fillon parlait jeudi soir, je crois, à Poitiers, de tribunal médiatique, par exemple.
Oui.
Alors, il parlait la semaine dernière des officines. Canard enchaîné a répondu que l'officine principale se trouvait au 173 rue Saint-Honoré, c'est-à-dire au siège du canard enchaîné.
Mais là, il copie un petit peu Donald Trump, François Fillon, parce que les attaques contre la presse et contre les juges, c'est le lot du Trumpisme aux États-Unis en ce moment. Et bon, c'est un bouc émissaire commode, on attaque le messager lorsqu'on veut détourner l'attention du message. Et François Fillon est très maladroit de ce point de vue-là parce que il a commencé en attaquant la misogynie, ensuite il a parlé d'un coup d'État institutionnel et maintenant le tribunal médiatique. Mais alors évidemment, c'est toujours payant d'attaquer les médias. Les médias sont impopulaires, on le sait.
Difficile d'être journaliste aujourd'hui. Hein.
Et les journalistes aussi ont un travail d'introspection à faire sur une partie de leur manière de faire. Mais là, en l'occurrence, ils ont fait leur boulot et je pense qu'on ne peut pas s'en tirer avec simplement des invectives. Et d'ailleurs, les sondages montrent que les deux tiers des Français ne sont pas convaincus par les explications de François Fillon. Donc on a une vraie crise parce que si le candidat de la droite est décrédibilisé et qu'il s'accroche à son poste, ce qui est le cas aujourd'hui, on a une campagne électorale qui va être terrible.
Parce qu'il faut rappeler, vous l'avez dit un instant, que les avocats du couple Fillon ont annoncé avoir demandé au parquet financier de se dessaisir de l'enquête.
Oui, il y a peu de chances qu'il soit suivi.
Ce qui va sans doute pas plaire au parquet financier, entre parenthèses.
Oui, tout à fait. Plutôt décupler leur énergie.
RFI. Et partons pour un continent que vous aimez bien, que vous connaissez bien, Pierre Raski, l'Afrique. D'abord en Côte d'Ivoire, avec un nouvel accès de fièvre de militaires, mardi, cette fois des forces spéciales, à Diaké, précisément à 90 km d'Abidjan. Reportage de Frédéric Gara.
Scène de panique à Kakoukro, le dernier village avant la ville d'Adiaké. À l'instar de ce qui s'est passé à Adiaké quelques minutes plus tôt, des militaires cagoulés des forces spéciales sillonnent l'unique route goudronnée et tirent en l'air, ordonnant aux habitants de rentrer dans leur maison.
Il y a des fusillades. Donc nous, on ne sait pas pour quelle raison les militaires sont en train de tirer.
Vous avez eu peur, vous?
Oui, j'ai eu peur.
C'est les militaires qui nous ont paniqué. Oui, je suis commerçant, je suis obligé de rentrer.
Et qu'est-ce qu'ils veulent exactement?
Je ne sais pas, peut-être c'est leur salaire, je ne sais pas.
Un peu plus loin, un barrage filtrant tenu par les forces spéciales en colère nous intime l'ordre de faire demi-tour, puis se ravise et nous explique finalement l'objet de leurs revendications.
Aujourd'hui, on rentre en mouvement aujourd'hui juste parce qu'il y a plein de personnes qui sont encore là en train de travailler dur, à qui on ne donne rien ou qu'on n'encourage pas. pour le travail qu'ils font. Nous, on n'a pas vraiment envie de toujours utiliser les armes, tirer et blesser, même par inadvertance de la population civile. Voilà, mais le problème qu'ils sont en train de créer, il faut qu'ils règlent pour que quelque part tout le monde aille au calme.
La délégation des officiers supérieurs, conduite par le chef d'état-major des armées, le général Sékou Touré, après avoir entendu les mutins d'Adiaké, est retournée en rendre compte au ministère de la Défense à Abidjan. On saura peut-être à l'issue du Conseil des ministres de ce jour ce qui a été décidé pour cette nouvelle vague de mutins ivoiriens.
Et les mutins sont rentrés dans leur caserne et ont demandé pardon à leur hiérarchie, à la population aussi. Direction la Somalie maintenant, Piraski, cet état qui n'en est plus tout à fait un, mais qui a néanmoins un nouveau président, la personne de Mohamed Abdoulaye Farmajo, dit Farmajo. Il a été choisi par des parlementaires réunis sous haute sécurité dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio à Nairobi, Laure Broulard.
Stabilité, renforcement de l'armée nationale et lutte contre la corruption. Le nouveau président a un programme chargé, difficile à mettre en place. Tout dépendra de la nomination du Premier ministre, explique Abdi Baroud de la plateforme citoyenne Wakil. Il faudra qu'il fasse l'unanimité entre les différents clans. Le nouveau président est issu du clan des Darod, tandis que Mogadiscio est majoritairement Haïwé. Pour relever le défi sécuritaire d'abord, les djihadistes Chebab ont multiplié les attaques d'ampleur à Mogadiscio ces derniers mois. Autre menace, la famine. Plus de la moitié de la population somalienne a aujourd'hui besoin d'une aide humanitaire d'urgence, selon les Nations Unies. Mohamed Abdoulaye Farmajo, réputé nationaliste, devra travailler avec les gouvernements des différents États fédéraux somaliens, mais aussi avec les hauts fonctionnaires proches de l'ancien président. Pour l'instant, il bénéficie du soutien populaire et de l'armée nationale somalienne. Et le bilan positif de son passage à la primature entre 2010 et 2011 est susceptible de rassurer la communauté internationale. Mais s'il représente un réel espoir de changement, conclut un analyste, il sera difficile de transformer les paroles en actes.
Terminons notre voyage cette semaine en Afrique du Sud, un pays où vous avez longtemps travaillé, Piraski, où jeudi, le discours à la nation du président Jacob Zuma a donné lieu à une bagarre générale au sens propre comme au sens figuré. Correspondance d'Alexandra Branjon.
Pendant plus d'1h30, le président Jacob Zuma a tenté de prendre la parole et pendant 1h30, l'opposition l'en a empêché. Les députés du parti radical de Julius Malema refusent de reconnaître le chef de l'État. Ils estiment qu'il a violé la Constitution et qu'il n'a pas sa place au Parlement. Le ton est monté, des coups ont été échangés et les 25 députés des combattants pour la liberté économique ont été violemment expulsés de l'hémicycle. Après quoi, tous les députés de l'opposition ont quitté la Chambre en signe de solidarité. Le président Jacob Zuma a ensuite pu prononcer son discours à la nation, une intervention très centrée sur l'économie et le besoin de transformation économique et sociale radicale, alors que le chômage est à plus de 26% dans le pays. L'opposition, quant à elle, a tenu une conférence de presse à l'extérieur du Parlement pour dénoncer cette violence et notamment le déploiement de plus de 400 soldats de l'armée autour du bâtiment.
Notre adresse électronique.
semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Vous pouvez aussi nous contacter à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Un bonjour aujourd'hui à Muriel qui nous écoute à Paris, à Sarah qui est une fidèle de l'émission depuis 12 ans. Un salut également à Sini, Ali et Baba, Ousmane à Dakar, à Jean-Jacques à Cocody et à Boubacar à Niamey. Suite et fin d'une semaine d'actualité. Déjà, le temps passe vite, Piraski. Alors ça, vous avez éprouvé de la nostalgie en écoutant cette correspondance d'Afrique du Sud ?
Alors, j'ai surtout éprouvé de la tristesse parce que...
Il faut rappeler que vous avez travaillé.
J'ai été correspondant de l'AFP en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, ouais. de 1976 à 1980. J'étais là au moment où il y a eu le soulèvement de Soweto, le 16 juin 1976, qui est un peu le début du compte à rebours qui a conduit à la libération de Nelson Mandela et à la fin de l'apartheid.
Et ensuite, vous aviez écrit un livre qui avait été remarqué à l'époque, je m'en souviens, l'Afrique blanche, l'histoire et l'enjeu de l'apartheid.
Absolument. Et je suis retourné en Afrique du Sud plusieurs fois, j'y étais encore l'année dernière, c'est un pays que j'aime beaucoup et qui, hélas, est aujourd'hui dans une situation assez dangereuse, parce que l'ANC se comporte un peu comme un parti unique, alors que l'Afrique du Sud s'était dotée, avec Mandela, de la constitution la plus démocratique et la plus exemplaire d'Afrique, voire même du monde, et que ses successeurs, les successeurs de Nelson Mandela, n'ont pas été à la hauteur du standard que Mandela avait créé.
Mais là, on sent une dégradation.
Et Jacob Zuma a échoué. Il s'accroche aujourd'hui à son poste de président, alors qu'il est contesté de toutes parts, que son comportement, on parlait de morale et d'éthique tout à l'heure, là sur ce terrain, il a franchi toutes les bornes, qu'il y a une impatience sociale, politique et morale dans le pays qui est manifeste, et l'ANC est aujourd'hui incapable de gérer ce problème. Il y a eu des élections municipales il y a quelques mois qui ont été perdues par l'ANC dans les grands centres urbains, mais aujourd'hui il y a une situation de blocage qui provoque des scènes comme cette bagarre au Parlement, qui est effectivement indigne, mais qui est le fruit de ce blocage. Et il faut vraiment espérer que l'ANC trouve en elle-même, ou en lui-même plutôt, les ressorts pour régler ce problème, parce qu'autrement, ça risque de mal tourner dans ce pays, qui est pourtant un pays absolument capital pour le continent. C'est un pays qui a une capacité d'entraînement et d'énergie pour l'Afrique, qui est formidable et qui n'a pas été à la hauteur de ce poids et de cette responsabilité.
L'Afrique, Pierinski, est au cœur de votre livre, parce que vous, dans ce livre, dont je rappelle, consacré à la France, ce droit au bonheur, la France à l'épreuve du monde, et vous dites qu'il faut que la France se retourne vers l'Afrique.
Oui, en fait, je consacre un chapitre entier à l'Afrique, parce que j'ai beaucoup couvert l'Afrique, j'ai sillonné l'Afrique de long en large, et en particulier l'Afrique francophone dans les années 80, à l'époque de Mitterrand, et je pense qu'il y a eu une occasion ratée à l'époque de Mitterrand de changer les rapports entre la France et l'Afrique, et c'était une faute majeure, je pense, de Mitterrand de continuer sur cette lancée que j'appellerais néocoloniale par facilité, mais et ensuite de tourner le dos à l'Afrique. Et on voit bien aujourd'hui que la France, depuis
une sorte de désamour,
depuis une quinzaine d'années, n'a plus le regard tourné vers l'Afrique. Et je pense que il y a quelque chose à réinventer dans les rapports, un nouveau rendez-vous à prendre entre la France et l'Afrique, qui soit débarrassé de toute visée néocoloniale de reste de France-Afrique ou de etc. C'est un rêve, hein, ce que je dis. Je pense qu'avec le renouvellement des générations. Ouais. L'éloignement de la période coloniale, il y a peut-être quelque chose à faire, parce que je pense que la France a besoin de l'Afrique plus que l'Afrique n'a besoin de la France. L'Afrique aujourd'hui a d'autres partenaires, pour le meilleur et pour le pire.
Il est plus gros.
Beaucoup plus gros, comme la Chine, évidemment. Et la France a une proximité et une complicité potentielle avec l'Afrique, et qui peut être au bénéfice des deux partenaires. Voilà, ça fait partie du droit au bonheur dont j'ai fait le titre, un bonheur franco-africain.
Et vous dites dans ce livre, à la fin de ce livre, après le constat que vous faites de l'état de la France, vous qui avez souvent vécu à l'étranger, vous l'avez dit tout à l'heure, vu souvent de loin, vous lancez un cri plutôt optimiste, si je puis m'exprimer ainsi. Vous dites que vous sentez que les Français, d'évidence, c'est le cas, les Français essaient de se prendre en main, en fait, de renouveler la France, et notamment sur le plan politique.
Oui, on est à un moment, je pense,
loin
charnière
des partis classiques.
Et un moment clé, et on est focalisé en ce moment sur la période électorale, mais je pense qu'il faut regarder aussi ce qui se passe
en dehors de
la vie politique. Ouais. Et je pense que de plus en plus, la réorganisation, la reprise en main de la société française peut se dérouler en dehors des partis et en dehors de cette scène politique, même si celle-ci est évidemment incontournable et très importante. Mais je pense qu'on est à un moment charnière, parce que le monde se réorganise avec ou sans nous, et si nous ne prenons pas rapidement les mesures qu'il faut, la prise de conscience aussi de la manière de s'en sortir, la réorganisation du monde se fera sans nous. Sans nous les Français, mais aussi sans nous les Européens. On le voit bien, par exemple, par rapport à d'énormes sujets comme l'emprise des grands groupes informatiques, Google, Apple, etc. L'Europe est aujourd'hui menacée de devenir sous-traitante ou en tout cas sujette de ces empires, et prise entre le double étau de la Chine et des États-Unis. Donc il y a des sujets qui sont plus étroits, qui sont ceux de la société française et de la cohabitation, de la réinvention de ce qu'on a appelé, j'aime pas beaucoup cette expression, mais le vivre ensemble, une expression un peu désuète, qui aujourd'hui est plutôt le mal vivre ensemble. Et puis il y a les enjeux énormes, ceux de la géopolitique, ceux de la construction d'un nouveau monde avec des nouveaux rapports de force. Et entre les deux, la France est aujourd'hui un peu perdue, un peu ballottée. Et voilà, je lance un appel à mes compatriotes en disant attention, on est menacé d'être sorti de l'histoire, expression que Nicolas Sarkozy avait employée à propos de l'Afrique, mais qui pourrait fort bien s'appliquer à la France.
Vous parlez du fameux discours de Dakar dans votre livre, vous y en venez évidemment, mais ça sera ma dernière question, Pierre. Face aux élections qui se profilent, présidentielles puis législatives, il y a un désarroi des électeurs.
Il y a un désarroi et que je partage aussi. Je vais être très honnête, je ne sais pas pour qui je vais voter.
Vous non plus.
Dans quelques semaines. Et finalement, on en vient d'élection en élection à se dire qu'on vote pour le moins pire,
ouais, ou le, dans le, livre,
le moindre
dites,
mal.
J'aimerais un jour voter
exactement,
avec enthousiasme.
Ça fait au moins 20 ans que j'ai pas voté avec enthousiasme. Et ça, je pense que c'est un sentiment qui est partagé par énormément de Français. Et là, cette année, je pense qu'on est en train de battre tous les records, parce qu'entre les scandales, la montée du Front National, des candidats dont on ne sait pas trop ce qu'ils pensent réellement et quel est leur programme, on ne sait pas où donner de la tête.
Merci Pierre Aski. Votre essai s'intitule Le droit au bonheur, la France à l'épreuve du monde. Il est publié chez Stock et je le recommande parce qu'il est avant tout optimiste et on a besoin d'optimisme. Merci.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée par Ludivine Amado. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Et là, nous rendrons hommage à un historien des idées qui nous a quittés il y a quelques jours, Tsvetan Todorov, en vous proposant une rediffusion d'un numéro d'idées que nous avions fait ensemble, donc avec lui en 2012, demain dimanche, comme d'habitude. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.